Kiosque Magazine. Saviez-vous qu'à l'origine, le 1er mai était jour de déménagement au Québec? Eh bien, aujourd'hui, c'est la fête des travailleurs. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition Kiosque Magazine du vendredi avec pour thème art et culture, Geneviève Patterson au micro pour 7 heures. Et je salue mes acolytes Charles et Jennifer qui sont absents aujourd'hui. Bonne émission. Commençons en musique. L'heure des festivals a sonné. Le Picnic électronique 2015 offre une programmation, oui, plus qu'éclatée cette année. Il y a un article sur le site de Nightlife Magazine. Vos lendemains de brosse du dimanche prendront une toute autre tournure à partir du 17 mai prochain, qui est la date officielle du lancement 2015 de cette 13e édition du Picnic électronique. Une programmation, comme on dit, éclatée et diversifiée vous y attend. Les artistes qui vont prendre d'assaut le parc Jean-Drapeau durant les 14 premiers événements du pique-nique du 17 mai au 26 juillet sont maintenant dévoilés. Ça débute passablement bien avec un premier week-end de deux jours qui sera mené le dimanche par les deux dirigeants du label house disco irlandais Maeve, Mano Le Toff et The Drifter, et le lundi des Patriotes par les reines de la nuit britanniques Heidi et Maya Jane Coles. Le mois de mai va se poursuivre avec beaucoup d'éclat, notamment grâce à la présence du patron de Hot Flush Recordings, Scuba, du producteur South London Ordnance et du collectif torontois My Favorite Robot. En juin et juillet, on va pouvoir voir à l'œuvre le Britannique Damien Lazarus, le maître de la fusion disco, jazz, funk, house, Floating Points, le duo européen Tiger and Woods, le producteur techno de San Francisco Matrix Man, l'allemand Daniel Bortz, la sensation du label Life and Death Job Jobs et le maître de Chicago chez Damier. Certaines figures locales vont également prendre ancrage près du Calder mythique du parc Jean-Drapeau. On parle de Jacques Green, Boom Clap, Sinjin Hawk, Iron Galaxy et Voyage Fantastique, le projet de DJ mené par le talentueux Dr. Mad. Pour plus d'informations, allez sur le site web, évidemment, de Picnic électronique. Et jusqu'au 31 mai, les passes de saison sont en rabais à 75 $, oui, pour les étudiants. Alors, profitez-en. Pour ma part, j'ai déjà ma passe. Je sais pas pour toi, Rémi, à la mise en onde, mais moi, en tout cas, j'ai bien hâte d'y aller. C'est beau comme on s'aime de Yann Perrault, un artiste bien de chez nous que j'apprécie grandement. Et parlant d'artistes de chez nous, eh bien dans Le Devoir, il y a deux articles de théâtre. En fait, Le Rideau Vert qui propose une saison 2015-2016 aussi ludique que réfléchie. Un article de François Lévesque. On va passer du vaudeville à la tragédie moderne, en passant aussi par la comédie romantique. Le Théâtre Rideau Vert a dévoilé hier, en fin de journée, une programmation, comme à l'habitude, bigarré à souhait. Encore une fois, les coups de cœur de la directrice artistique Denise Filiatro aspirent à composer une saison en équilibre entre l'accessibilité et la qualité. La ligne éditoriale, grandir, penser, se détendre et se faire plaisir. Et Denise Filiatro va mettre elle-même en scène la pièce d'ouverture, qui est l'œuvre d'un de ses auteurs fétiches, évidemment Georges Feydeau. Il s'agit cette fois de Monsieur Chasse, qui est l'histoire d'un homme qui prétexte une partie de chasse pour tromper sa femme, mais qui se retrouve lui-même cocu. Évidemment, les portes claquent, les malentendus s'accumulent et les pantalons se perdent dans la frénésie de cette comédie légère, promettons. C'est avec Diane Lavallée et Karl Béchard du 15 septembre au 10 octobre. Et puis également, pour entendre du jamais lu, c'est un article d'Alexandre Cadieux. C'est la 14e édition de ce festival qui s'ouvre aujourd'hui en soirée aux Écuries avec la soirée « S'appartenir E ». Entre parenthèses, elle a déjà été présentée à Ottawa et à Québec. C'est une œuvre collective qui réunit des paroles d'auteurs d'origine ontarienne, québécoise, acadienne et inoue qui questionnent la notion d'appartenance d'un point de vue féminin. On va y entendre Joséphine Bacon, Marjolaine Beauchamp, Véronique Côté, France Daigle, Rebecca Deraspe, Emmanuel Gymnase, Catherine Léger et Anne-Marie Olivier, lues par elle-même. En écho à cet opus, le co-directeur artistique invité, Justin Laramé, qui secondait cette année la co-fondatrice Marcel Dubois, a orchestré une réponse hommage en invitant six hommes à se prononcer sur des questions comme le féminisme et l'équité. Simon Huron, Robin Aubert, Jean-Marc Dalpé, Olivier Kemed, Robert Lalonde, Steve Laplante et Philippe Racine. Y tenir sera donné en guise de clôture du festival le samedi 9 mai. Alors le festival, je vous le rappelle, c'est au théâtre aux Écuries, d'aujourd'hui jusqu'au 9 mai. Et puis Justin Laramé, qui est le co-directeur artistique, s'est confié au journal Métro hier en disant que c'est une chance unique et que la beauté du théâtre, c'est que chaque soir, c'est différent. Mais le jamais lu, c'est plus dense que ça. C'est un soir seulement. Tu peux venir trois fois et assister chaque fois à une première qui ne se répétera jamais. En cinéma maintenant, un article du journal Métro de ce matin par Martin Gignac. Cinéma brutal. Simon Gaudreau joue avec les codes du documentaire dans, excusez-moi, mais c'est le nom du film, Fucké, où il présente des gens trop souvent marginalisés. Il pense qu'en regardant le film, on finit par avoir une empathie pour ces personnes-là. Et on se rend compte qu'au-delà du préjugé qu'on peut avoir, ils nous ressemblent. Le mot « fucké » devient affectueux. C'est les mots que Simon Gaudreau a utilisés en expliquant le titre de son documentaire qui sort en salle aujourd'hui. Et puis, les marginaux, ils sont qui? En fait, ils sont âgés de 32 à 65 ans. Ce sont des assistés sociaux qui s'entassent dans un bloc appartement de 33 chambres du plateau Mont-Royal, avec des toilettes communes à l'étage, qui discutent de bonheur, d'aspiration et de pauvreté. Le tout sur fond de fumée de cigarettes et d'haleine de bière. Fucké est un documentaire qui secoue et qui remue tout à la fois. Mon cinéma est assez brutal, avoue Simon Gaudreau, qui avait réalisé en 2010 l'essai King of the Lest. Je pense que ça propose une expérience cinématographique un peu moins conventionnelle que les documentaires en général. Ce qui l'intéresse au cinéma plus que le sujet, c'est le langage cinématographique. Dans le monde du documentaire, ce sont des questions éthiques. Qu'est-ce qu'on montre et comment le montre-t-on? Ce qui peut rendre mal à l'aise lorsqu'on regarde une scène, c'est qu'on se questionne par rapport à l'image qu'on voit. Est-ce que ce que je vois est quelque chose de bien, de mal? Dans mes films, eh bien, j'essaie de ne pas dire aux spectateurs quoi penser. J'agence des images pour faire en sorte qu'ils se questionnent sur la réalité qui leur est montrée. Mais pas question pour autant de tomber dans le voyeurisme ou le misérabilisme. Mes personnages ne sont pas écrasés sous mon regard, assure Simon Gaudreau. Il n'y a pas de statistiques, de morale ou de messages pour dire que la société les maltraite ou qu'ils sont des victimes. Ce sont des humains et on apprend à les aimer. Je vous rappelle que Fokker sort en salle aujourd'hui. En musique, maintenant, ça a été publié le 28 avril dernier. C'est une suggestion de Charles, notre co-animateur habituel, que je salue. Florent Volant, La langue du cœur, c'est écrit par Daniel Lemay. Sa voix s'est adoucie et nous parvient toujours vibrante, mais moins stridente et nasillarde qu'avant. Par les quelques mots en français qui replacent les chansons en inou dans leur cadre poétique, on sent l'universel effleuré dans les évocations de la communauté, du clan, de la nation. Fraternité, chant, rêve, comme dans Puamuna, c'est le titre du quatrième album solo de Florent Volant. La musique, magnifiquement servie par le poésicien et maître de la guitare qu'est Régent Bouchard et par Kim Fontaine, nous rend capable de traduire dans la langue du cœur tous ces mots inconnus, l'Americana tout entière rassemblée sur les rives du fleuve mer. On parle ici d'un grand disque, le disque Puamuna de Florent Volant.
Pas aller à ses cours du matin, parce qu'en quelque part il sait que ça lui sert à rien, qu'il a préféré s'aîner au salon étudiant plutôt que de se faire chier dans un prof emmerdant. Il fait sans ambition, un deck en sciences humaines, un peu à reculons sans trop se donner la peine. Il voulait être comédien, mais ses parents lui ont dit que c'était pas un bon chemin pour être heureux dans la vie. Fait qu'il a pignesse pour rien dans ses études. Pour lui c'est de la foutaise, la crise de platitude. La seule chose qui l'allume, c'est son équipe d'impro ou les pétards qui se fument quand il fait de la radio. Mais sa maman espère qu'il devienne avocat, qu'il fasse un bon salaire, un peu comme son papa. Mais TQ est pas un con, c'est bien que pour être heureux, faut vivre pour ses convictions et non pour celles de ses vieux. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? Si tu vas tenter ta chance et mettre ton chemin dans la vie, parce qu'au fond le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir. Ta petite histoire. Et y a son grand frère, un genre d'insignifiant vendeur de cellulaires, qui pensait qu'à l'argent, qui lui dit c'est de valeur. T'auras jamais d'ouvrage, parce que devenir acteur, c'est pelleter tes nuages. Sa vie est toute tracée, il se pose jamais de questions. Oui, à entendre parler, c'est toujours lui qui a raison. Son petit cul s'en balance, il sait que les gens bornés veulent masquer leur impuissance en essayant d'écraser. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie? Si tu vas tenter ta chance et mettre ton chemin dans la vie, parce qu'au fond le vrai plaisir, c'est peut-être juste de pas savoir comment qu'elle va finir ta petite histoire. Sa copine, une fille qui est super fine, qui au moins le comprend, et sait qu'il y a du talent. Elle lui dit s'accrocher, continuer à croire qu'il sera peut-être accepté dans un conservatoire, et qu'il y a toujours l'option, même si c'est en attendant, faire la figuration dans les téléromans. Parce que pour vivre sa passion et pas regretter plus tard, faut bien comme de raison que tu commences à quelque part. C'est pour ça que demain il va tout abandonner, et aux diables les crétins qui veulent pas l'encourager, parce qu'il sait que le vrai plaisir au fond c'est de pas savoir comment qu'elle va finir sa petite histoire. Garder son esprit libre, trouver un peu d'équilibre, pour le reste il s'en fout ben, TQ à demain.
barbecue, des cow-boys fringants, ah, l'adolescence. Moi-même, j'ai déjà fait de l'improvisation, oui, au secondaire, avant, comme de raison, de commencer à quelque part et de faire de la radio il y a de cela 2 ans maintenant. Parlant d'adolescence, de garder son équilibre, ça m'amène à parler du prochain article, oui, en cinéma. Les pieds sur terre, Aurélie Laflamme, le deuxième long-métrage de la série de livres pour adolescents qui a été écrite par India Desjardins. Le film est sorti le 24 avril dernier. Alors, en résumé, Aurélie, maintenant, elle amorce son secondaire 5 avec optimisme. Ses amours avec Nicolas la comblent, sa complicité avec sa meilleure amie Kat ne se dément pas et sa transition vers l'école publique se déroule sans heurts. Ou presque. Son professeur de français, qui perçoit en elle un potentiel d'écrivaine, lui met de la pression. Et à la maison, Aurélie, qui n'a pas encore fait le deuil de son père, a des rapports tendus avec le nouveau conjoint de sa mère, France, laquelle montre des signes inquiétants depuis un certain temps. On parle d'impatience, bouffée de chaleur, distraction, etc. Alors pour l'adolescente, il n'y a aucun doute, c'est la ménopause. Erreur. France est enceinte, mais n'ose pas l'avouer à sa fille. Oh oh. Entre-temps, Aurélie est larguée par Nicolas, jaloux de son amitié privilégiée avec Tommy, un nouveau membre de sa bande. Après une période de déprime, la jeune fille se rend à une fête où un garçon du cégep lui tombe dans l'œil. Mais par maladresse, elle se ridiculise devant lui. Ne renonçant pas à le séduire, elle va s'inventer une sœur jumelle. Alors, que d'aventures et de péripéties pour Aurélie Laflamme. Déjà, les critiques sont bonnes. On parle de beaucoup d'humour. Même les adultes rient de bon cœur. C'est José Lapointe dans La Presse qui a écrit ça. Et on parle aussi... José Lapointe, toujours dans La Presse, a dit que s'attaquer à un classique comme le journal d'Aurélie Laflamme, série de romans jeunesse signée India Desjardins, devenue culte depuis la sortie du premier tome en 2006, ça demande du courage. Mais tiré des deux derniers tomes, et essentiellement du huitième, Les Pieds sur Terre, c'est réalisé par Nicolas Monette, qui respecte parfaitement l'esprit de l'univers créé par l'auteur vedette, qui signe d'ailleurs le scénario du film. Alors, allez voir ça en famille ou entre amis, ça a l'air d'être génial. En théâtre maintenant, Josiane Desloges signe dans Le Soleil, Jean-Sébastien Ouellette, Macbeth en pièce détachée le 18 avril dernier. Je me suis tellement nourrie d'horreur, les carnages dans ma tête m'ont tellement rendue insensible que plus rien ne me fait rien. Laisse tomber Macbeth après la succession de meurtres qui l'ont porté et maintenu sur le trône. Pour se rendre à ce point culminant de la plus sombre des pièces de Shakespeare, Jean-Sébastien Ouellette et Marie-Josée Bastien ont entrepris de débusquer la part d'humanité du monstre. Ça, c'est le constat de sa vie. Laisse tomber Ouellette à propos de la fameuse réplique. La démesure, elle, naît d'abord du désir de s'élever et de briller. C'est une étincelle que chacun porte en lui-même et que l'on peut éteindre ou allumer, croit le comédien. Celui-ci l'avoue de rechef, il ne pense jamais s'attaquer à ce grand personnage du répertoire, même si, beau hasard, Macbeth est la première pièce qu'il a lue au secondaire. Il a donc décortiqué l'imposant rôle en morceaux, comme s'il fallait que j'oublie que c'est Macbeth au bout, glisse-t-il, pour que le personnage se façonne à coups de gestes, de moments, de répliques et d'émotions, parfois aux antipodes. Contrairement à Richard III, qui se hisse jusqu'au trône à coups d'intrigues machiavéliques, Macbeth et Lady Macbeth, interprétés par Erika Gagnon, sont des amoureux et des êtres de chair animés par leurs sentiments, observe Ouellette. Où serons-nous? Eh bien, ni tout à fait en Écosse médiévale, ni tout à fait aujourd'hui dans un espace-temps indéfini. Même si on ne fend plus l'écran à coups de hache, nos instincts profonds n'ont pas tellement changé, plaide Ouellette. Et la manière de raconter de Shakespeare avec des scènes courtes et efficaces, malgré plusieurs longs monologues, a quelque chose du thriller ou du film d'action qui convient bien aux spectateurs d'aujourd'hui. Celui qu'on a vu dans Les Nuits des Rois, La Nuit des Rois, oui, l'opéra de Katsu et Marie Tudor joue ici le rôle qui creuse le plus loin dans le côté obscur de sa carrière. On le verra aussi dans Quills, aux côtés de Robert Lepage l'an prochain. Et là, je me suis trompée, ce n'est pas du théâtre, c'est du cinéma. C'est à l'affiche, on parle de Macbeth de Shakespeare dans une traduction de Paul Lefebvre, mise en scène par Marie-Josée Bastien, avec évidemment Jean-Sébastien Ouellette, Erika Gagnon, Charles-Étienne Beaune, pour ne nommer que ceux-ci, à la salle Trident du 21 avril au 16 mai. En peinture, maintenant, publié le 27 avril dernier par Jean-Michel Genois-Gagnon dans la presse, des toiles sauvées grâce au charme de deux femmes. Deux jeunes femmes ont tendu un guet-apens à des voleurs d'œuvres d'art dans la nuit de vendredi à samedi. Résultat, trois tableaux récupérés et deux arrestations. Alors que deux hommes dans la trentaine croyaient avoir réussi le coup parfait en dérobant trois toiles lors de l'exposition Canadian Bacon 3, ils ont commis une seule bavure entre 2h et 3h, tombés sous le charme féminin. L'histoire débute vers 17h au restaurant Les Salons d'Edgar dans le quartier Saint-Roch à Québec. Deux hommes d'origine française décident d'aborder un groupe composé de quatre femmes, mais sans plus. La soirée se poursuit et les hommes rencontrent de nouveau les jeunes femmes lors de l'exposition qui se déroule au 272 rue Christophe-Colomb-Est. Entre minuit et 1h du matin, les deux hommes se sont sauvés avec trois tableaux d'une valeur d'environ 1 300 $, raconte au Soleil l'un des organisateurs de la soirée, Philippe Soldevilla. Ils ont quitté les lieux par la sortie de secours. Ils avaient débranché le système d'alarme, précise-t-il. L'une des quatre femmes, reconnaissant les deux hommes, décide de les poursuivre à l'extérieur, mais en vain. Une battue est par la suite organisée. Plusieurs artistes et gens présents à l'exposition décident alors de ratisser les rues de la basse ville de Québec afin de retrouver les voleurs. Environ 300 personnes étaient présentes à l'événement ouvert au public, visant à mettre de l'avant une quarantaine d'artistes émergents. Il y a plus de 150 œuvres qui étaient exposées. Et après plus d'une heure, les gens ont abandonné les recherches. Ariane et Anne-Marie, qui faisaient partie du quatuor qui avait rencontré les deux Français durant la soirée, eh bien, elles ont décidé de rentrer chez elles. Alors qu'elles marchent dans la rue, les deux femmes retrouvent par hasard les hommes au coin des rues Saint-Joseph et Dorchester. Elles commencent à discuter avec eux comme si de rien n'était, et elles vont même jusqu'à les inviter à prendre un verre au bar La Cuisine sur la rue Saint-Vallier-Est. Les hommes acceptent l'invitation et tombent dans le guet-apens. Les deux gars étaient sous l'influence de l'alcool. Je ne pense pas qu'ils nous ont reconnus, affirme Anne-Marie. Nous étions au bar. Ariane dansait avec l'autre homme et moi, je communiquais avec mon amie pour qu'elle contacte la police. L'autre gars dormait sur sa chaise dans le bar. Les policiers sont arrivés et les ont arrêtés. Beau travail, Anne-Marie et Ariane. Vraiment, je vous salue. Et les œuvres des artistes Simone Blain et Sagana Squall ont été récupérées vers 3h dans un appartement. Le lieutenant Pierre Fortin du service de police de la ville de Québec soutient que l'un des deux jeunes hommes, oui, a été libéré quelques heures après son arrestation. L'autre homme a été détenu durant la nuit de vendredi à samedi et il a été libéré avec une promesse de comparution à une date ultérieure. Et il y a une enquête qui a été ouverte. Vraiment sauvé par le charme de deux femmes, c'est incroyable comme histoire. Toujours en musique. Oui, en musique. Colin Stetson et Sarah Neufeld, c'est plus qu'une addition. Ça a été publié ce 28 avril dernier sur le site de La Presse par Alain Brunet. Motifs mélodico-harmoniques, choix rythmique, innovation texturale, références stylistiques de Colin Stetson et Sarah Neufeld sont ici des vases concomitants. Et plus encore, on parle d'un jeu de langage visuel qui trouve un terrain d'entente où fleurissent des compositions supérieures aux démarches individuelles de ces musiciens montréalais. On a déjà observé que les trouvailles de Stetson pouvaient épater de prime abord, mais qu'on faisait assez vite le tour du jardin avec ses trucs de respiration circulaire, microphone contact et quête microtonale. Combiné au motif de Sarah Neufeld à l'archet ou à la voix, les musiques de Stetson sont plus que des matériaux utiles à d'éventuelles compositions. Les 8 pièces au programme de Never Were the Way She Was offrent une variété de propositions à la fois exploratoires et accessibles parce que liées de près ou de loin à des formes traditionnelles ou populaires. Ces entrelacements entre cordes, vents et voix permettent ainsi au tout de dépasser la somme de ses parties. On parle de l'album de catégorie indie expérimentale Never Were the Way She Was, Constellation de Colin Stetson et Sarah Neufeld. Et pour ce week-end, une petite suggestion de sortie dans le journal Métro, des sorties familiales en musique et les petits chanteurs du Mont-Royal qui seront à l'église Saint-Léon de Westmount sur le boulevard de Maisonneuve-Ouest ce dimanche à 15h. C'est un concert bénéfice sur le thème Chanter la paix. Les 120 petits chanteurs du Mont-Royal vont interpréter le Te Deum en do majeur de Haydn, suivi de quelques pièces des compositeurs Giuseppe Verdi et Claude Debussy. La deuxième partie fera place à des extraits de chansons américaines et françaises. Et il y a aussi la virée des ateliers, une centaine d'ateliers à visiter sont proposés dans trois lieux de la rue Parthenay. On parle des immeubles Grover, le Chat des artistes et la coopérative Les Arts pour cette 8e édition qui permet aux artistes de discuter de leur art et de partager les secrets de leur discipline, que ce soit la peinture, la sculpture, la photo, la mode, le design, la joaillerie. Pour plus d'infos, la virée des ateliers toutcollerensemble.com, c'est de ce soir à dimanche. Je parlais un peu de mode dans la suggestion de sortie là, pour les ateliers qui vont avoir lieu sur la rue Parthenay. Eh bien, la griffe Félix Dubuc chez Canuck, c'est un sujet qui est exclusif à la presse d'hier par Isabelle Massé. Canuck et le créateur Philippe Dubuc vont travailler ensemble aux prochaines collections du détaillant québécois de manteaux. Les premiers résultats de leur collaboration vont être visibles à l'automne 2016. Et on fait une courte pause publicitaire et je reviens tout de suite avec la suite de mes articles.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, juste avant la pause publicitaire, je vous parlais de la griffe Philippe Dubuc qui s'amène chez Canuck. Eh bien, ces dernières années, il y a eu d'autres personnes qui ont collaboré avec... en fait, plusieurs designers ont collaboré ensemble. Eh bien, Philippe Dubuc a été sacré designer de l'année mode masculine de la Canadian Arts and Fashion Awards en février dernier. A lui-même créé plusieurs collections féminines pour le détaillant Simons et une pour le 35e Festival international de jazz de Montréal. Alors, Canuck, rappelons-le, c'est un fabricant de manteaux très chaud. Fête ses 41 ans cette année. Bonne fête, Canuck. Et il y a deux mois, son fondateur, Louis Grenier, annonçait qu'il avait cédé le contrôle de son entreprise à la Corporation financière Champlain pour en assurer la pérennité. Alors, celle-ci est désormais dirigée par Richard Laniel, anciennement dirigeant de Best Buy Canada. Le magasin Canuck et la manufacture sont situés sur la rue Rachel à Montréal et emploient une centaine de personnes et confectionnent 30 000 manteaux par année.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm I
I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and
ah, quelle belle chanson! Wake Me Up d'Aloe Black. Et puis oui, la vie est un jeu fait pour tout le monde et l'amour en est le prix. Et pendant qu'on est jeune, il faut en profiter. On continue en exposition de peinture. Le festival Mural 2015, on parle de 11 jours d'art public, de musique et de fun. Un article paru sur le site de Nightlife Magazine par Kelly Ann Neely le 28 avril dernier. Alors, le Festival international d'art public mural revient en force cette année en prolongeant sa programmation sur 11 jours plutôt que 4. Et oui, l'édition 2015 du festival va avoir lieu du 4 au 14 juin prochain sur le boulevard Saint-Laurent et réserve bien des surprises. Plusieurs artistes de renommée mondiale provenant de 8 pays différents vont s'arrêter à Montréal pour l'occasion. Des noms comme Nikos, Curio, Alex Void ou Axel Void et Eliane signeront les murales aux côtés d'artistes d'ici, dont Earth Crusher, Astro, Melissa Del Pinto et Éric Clément. Et chaque jour, les curieux vont pouvoir se promener sur le site piétonnier, dont l'accès va encore être gratuit cette année, afin d'assister en direct à la création des murales. Vos yeux vont être bien occupés parce que c'est 20 nouvelles créations artistiques qui vont voir le jour. 20 nouvelles créations artistiques, ce qui va porter le nombre total de murales à 50 sur le boulevard Saint-Laurent. Il sera possible de participer à des tours guidés pour découvrir les œuvres du parcours mural. Vraiment, ça a l'air super intéressant. Et du côté gastronomie, fidèle à moi-même, un article trouvé encore une fois dans la presse du 28 avril dernier par Marie-Claude Lortie. Joël Robuchon ouvre un restaurant à Montréal. Le chef français les plus célèbres dans le monde actuellement, le français Joël Robuchon, va s'installer au Casino de Montréal. Son restaurant, l'Atelier, va ouvrir dans un an, donc en mai 2016. Et après des mois de rumeurs, les pourparlers ont duré depuis 18 mois, eh bien, la nouvelle a été confirmée hier par la Société Loto-Québec qui va installer M. Robuchon dans la partie du casino située dans l'ancien pavillon du Québec de l'Expo 67, à côté du pavillon, du bâtiment principal. Et le nouveau restaurant va avoir 70 places. Et c'est curieux parce que, si je me souviens bien, le casino de Montréal, lors de l'Expo 67, c'était le pavillon de la France. Si je ne me trompe pas. Et le chef Robuchon, qui a récolté 28 étoiles Michelin depuis le début de sa carrière, eh bien, il y a déjà des restaurants dans le monde entier, notamment à Paris, mais aussi Hong Kong, Singapour, Tokyo, Bangkok, Las Vegas et Londres. Il va en ouvrir un bientôt à New York et ensuite, ça va être Montréal. Alors vraiment, bon appétit tout le monde. J'espère qu'il va y avoir des choses quand même accessibles à ce restaurant-là. Pour ma part, je vais me contenter de mon, encore une fois, fidèle à moi-même, mon macaroni au fromage Kraft Dinner cet après-midi. Puis je vais aller au Café Gourmet à Berry-UQAM rajouter du bacon dedans. Voilà.
Mmh.
Maintenant, de retour au cinéma, un documentaire dont on parle aujourd'hui dans le journal Métro. C'est par Sébastien Tanguay. On parle du documentaire « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate ». Pourquoi? Eh bien, le docteur congolais Denis Mukwege consacre sa vie à guérir des femmes ravagées jusque dans leurs entrailles par la guerre sans fin qui dévaste le Kivu, c'est au Congo. Alors, inspiré par la quête de justice et d'humanité de cet homme qui répare les femmes, ces damnés de la guerre refusent de se résigner et s'éveillent à la revendication de leurs droits. Les décennies de guerre qui ont fait rage au Kivu, une région située dans l'est de la République démocratique du Congo et dont le sous-sol gorgé de richesses est source de mille maux, ont non seulement coûté la vie à plus de 6 millions de personnes depuis 1998, elles ont aussi livré des dizaines de milliers de jeunes filles à la dépravation des hommes. Leurs corps devenus champs de bataille, elles sont violées, mutilées, empalées, poignardées, au niveau de l'appareil génital, et ce, bien souvent avant même de sortir de l'enfance. Dans l'enfer vécu par ces jeunes filles, le docteur fait figure d'ange gardien. Déterminé à soulager le corps et l'âme ravagée de ces jeunes filles, au fil du temps, il a guéri plus de 30 000 femmes. En plus de mettre sur pied des cliniques pour qu'elles reprennent confiance en elles et surtout qu'elles prennent conscience de leurs droits. Dans son film « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate », présenté à Montréal dans le cadre du Festival Vue d'Afrique, le réalisateur belge Thierry Michel braque sa caméra sur l'œuvre du docteur, dont le combat offre une plongée vertigineuse au cœur des maux qui affligent la République démocratique du Congo. Il explique en entrevue avec Métro que tout là-bas est un manque de volonté politique. Le laisser faire d'une justice plus intéressée à la couleur de l'or qu'au châtiment des coupables a plongé le Kivu dans un abîme de souffrance. Après avoir opéré une fillette née d'un viol qui fut elle-même violée à 8 ans, le docteur Mukwege a décidé de porter l'attention du monde sur les atrocités commises dans son pays, souvent dans l'indifférence complice des pouvoirs en place. C'est David contre Goliath, soutient M. Michel. Le docteur est seul dans son propre pays. Il lutte à la fois contre des groupes armés et contre un pouvoir qui trouve son compte dans le conflit qui ravage le Kivu. Seul, mais entouré de milliers de femmes et qu'il a réussi à rendre fière d'elle-même. Ses filles étaient considérées comme des bêtes de somme corvéables à loisir. Mais maintenant, elles ont appris à revendiquer leurs droits et à apprendre aux hommes à protéger leurs sœurs. Rappelons que le docteur Mukwege est en liste deux fois pour le Nobel de la paix. On lui souhaite. Et le film est présenté ce soir à 20h15 et dimanche à 14h en présence du réalisateur, donc M. Thierry Michel, à la Cinémathèque québécoise. Bon film. Oui, je dis bon film, en fait, bon documentaire, parce qu'évidemment, c'est un sujet un peu trash, là, assez douloureux, mais tout de même intéressant et important de souligner. Sinon, tout à l'heure, je parlais d'activités à faire à fin de semaine, parce qu'on est vendredi le 1er mai, l'été s'en vient, le beau temps aussi, il annonce du beau temps en fin de semaine. Alors, des suggestions de sorties pour le week-end par Geneviève Tremblay dans Le Devoir d'aujourd'hui. Tout d'abord, il y a Jeanne, emmène-moi. Chaque printemps, c'est l'occasion de redécouvrir les quartiers de la ville qui ont dormi pendant l'hiver. À l'initiative du Centre d'écologie urbaine, des citoyens reprennent la barre des promenades de Jeanne, donc ces balades urbaines aux angles et problématiques multiples, que ce soit l'architecture, l'histoire, la vie nocturne, le vélo, l'agriculture, la culture. Le calendrier est bien garni cette année, mais on fait vite parce que les places s'envolent. Donc, c'est de vendredi à dimanche à Montréal. C'est gratuit. Pour le programme et l'inscription, on va sur le site écologieurbaine.net. Bon, tout à l'heure, je parlais aussi de secrets d'atelier. On en parle aussi dans Le Devoir pour savoir où et comment travaillent les artistes, à partir de quoi est-ce qu'ils créent, ce qui se trouve dans leur bureau, leur salon, leur placard. Donc, c'est la virée des ateliers. Donc, on nous amène, on ouvre les portes d'une centaine de lieux secrets où s'activent les peintres, designers, les chapeliers, les sculpteurs et les autres joailliers québécois. Ça commence aujourd'hui de 11h à 21h et samedi dimanche de 11h à 17h au Grover, au Chat des artistes et à la coopérative Les Arts sur la rue Parthenay à Montréal. Et encore une fois, pour plus d'infos, lavirédesateliers.com. Il y a aussi la grande corvée. Quels sont ces bouts de plastique et autres déchets sur nos terrains? Des résidus de l'hiver? Si votre grand ménage est fini ou non, vous pouvez donner un coup de pouce à la nature et à vos voisins en vous joignant, avec sourire et bonhomie, à l'une des nombreuses corvées organisées dans les quartiers et ruelles de l'île dans le cadre de la Grande Corvée annuelle de Montréal. De l'aide n'est jamais trop. C'est jusqu'à dimanche, mais les corvées vont s'échelonner jusqu'en juin. Pour le calendrier et les adresses, on va sur bit.ly, donc bit.ly, / corvée avec un C majuscule 2015. Ensuite, il y a la suite troyenne. Durant tout le mois de mai, dans le cadre des Dimanches du Conte, il y a le conteur Yves Robitaille qui s'attaque à un sujet de taille, et bien sûr, on parle de la guerre de Troie. En 5 épisodes, sa suite troyenne va résumer cette histoire légendaire, un classique de la mythologie grecque, de ses origines jusqu'au retour d'Ulysse. C'est ambitieux. Alors, c'est ce dimanche à 19h30 au Gainsbourg, 6289 rue Saint-Hubert à Montréal. Les autres épisodes seront les 10, 17, 24 et 31 mai. C'est 10$ et pour plus d'infos, on va sur le site dimanche au pluriel du conte.com. Et puis, une dernière suggestion de Geneviève Tremblay dans Le Devoir. Je tiens à vous dire, on peut lui écrire à l'adresse ici et là, @ledevoir.com, pour lui suggérer justement d'autres activités à faire le week-end. Mais là, Son et Friction, c'est une musique aux mélodies mystérieuses, voire déroutantes, la musique numérique. C'est l'occasion de s'initier au genre, puisque la Faculté de musique de l'Université de Montréal accueille Ultrason, une série de concerts avec des performances visuelles, de l'électroacoustique et même une carte blanche au compositeur allemand Hans Tutschkuh. J'espère que je le prononce bien, sinon je vais vous l'épeler. T majuscule U-T-S-C-H-K-U. Donc, c'est ce vendredi et les 7 et 8 mai à 19h30 à la salle Claude Champagne, l'adresse 220 avenue Vincent d'Indy à Montréal. C'est gratuit. Et pour plus d'infos concernant la programmation, c'est musique.umontréal.ca.
Yemba bo na bonde son tibana. c'est mamie, mais c'est son endolami.
Quel beau son! On entendait Timba de Munto Valdo, qui est un Camerounais de la tribu Sawa, parce que justement, tout à l'heure, on parlait d'un documentaire africain, ça se passait au Congo, mais là, on vous amenait en musique au Cameroun. Et un jour, je vous promets, je vais aller en Afrique et je vais vous parler en nom de chers auditeurs. Je vais vous faire voyager avec moi. Et puis, une petite chronique d'humeur ici, trouvée sur le site Nightlife. Je vais en parler rapidement parce que souvent, on parle des femmes, la journée de la femme, le féminisme, l'image, le culte du corps. Eh bien, le détesteur, c'est son nom, le nom du chroniqueur, de son vrai nom Murphy Lee Cooper, eh bien, dit « Peut-on en revenir du corps d'Eugénie Bouchard? » Parce que lui, il dit qu'il s'en fout d'Eugénie Bouchard. Et veut, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le tennis, ça ne l'intéresse pas du tout. Et forcément, ses joueurs encore moins. Et puis, lui, il dit que pour le plus grand bien de la culture populaire et locale, il se doit de savoir... Évidemment, bon, qu'une Montréalaise connaît du succès à l'échelle internationale et dans le sport qu'elle pratique. All right. Il dit, je le sais, c'est bon, information assimilée. Mais il dit ensuite, rien. Il dit, je m'en fous d'Eugénie. Et puis là, c'est qu'elle met beaucoup de photos sur Instagram, Eugénie, parce que oui, elle est jolie, qu'on se le dise. Et même sa sœur jumelle, elle met aussi des photos, mais elle fait encore... Rien de plus intéressant que sa sœur. Bon, elle est belle, guys, mais ne cherchons pas à investiguer davantage. Je répète, et là, elle est écrit en majuscule, elle est belle et se prend photo sur le soleil. C'est tout ce qui compte, c'est ce qu'on lui fait savoir. Et là, ce que le détesteur veut dire, c'est que Eugénie, elle est bien jolie, mais son sport, je m'en fous. Alors qu'Eugénie, je me fous aussi comme de toutes les photos d'elle qui sont larguées ici et là sur le web. Il trouve les gens qui aiment ces photos colons ou insignifiants. Je veux dire, j'en ai des crushs féminins moi aussi, mais c'est d'abord le talent de ces femmes qui attire mon attention. Et il arrive que oui, le physique me plaise, soit par préférence, soit parce que l'ensemble de l'œuvre a pour effet de rendre ces femmes séduisantes, mais rarement l'inverse. Et quand c'est le cas, je m'efforce d'en apprendre davantage sur ces individus qui ont forcément nettement plus à proposer qu'un corps désirable. Et on parlait de talent. Je termine ici en cinéma avec toujours un article sur le site Nightlife, publié le 28 avril dernier. Eh bien, Xavier Dolan va diriger un casting de feu qui inclut Marion Cotillard, Léa Seydoux et Vincent Cassel. Marion Cotillard, oui, donc va être dirigée par Xavier Dolan avec Sylvain Cassel, mais aussi Nathalie Baye et Gaspard Ulliel qui vont faire partie de la distribution du nouveau film de Dolan qui s'appelle « Juste la fin du monde », inspiré de la pièce de théâtre éponyme du dramaturge français Jean-Luc Lagarce. Le long-métrage va être produit par les films CVI et MK2, une collaboration France-Québec. Xavier Dolan se dit emballé par « Juste la fin du monde » et la perspective de travailler avec ses acteurs l'enchante, bien évidemment. Sa passion la plus viscérale, son absolue priorité sur les plateaux, c'est toujours le perfectionnement de la relation avec l'acteur, la précision du langage et l'importance, non pas juste de les diriger en tant que réalisateur ou qu'exécutant, mais de jouer avec eux littéralement comme acteur, réalisateur, même de l'autre côté du miroir. Alors, rassembler tout ça, tout ce beau monde, ces cinq individus si extraordinaires, si créatifs, pour lui, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment incroyable. Le film, en bref, ça raconte l'histoire d'un écrivain qui retourne dans son village natal après plusieurs années pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Donc, ce sont les retrouvailles que l'on peut... de l'amour que l'on porte à travers les éternelles querelles et puis les vieilles rancœurs qui refont surface et qui parlent au nom du doute et de la solitude. Disons qu'on a bien hâte de voir ça.
«
d'autres suggestions de sorties familiales. Ce samedi au Parc Maisonneuve, c'est le samedi Nature en famille. Alors, placé sous le thème « Découvrons, apprenons et amusons-nous », les cercles des jeunes naturalistes proposent cette fin de semaine une chouette chasse aux insectes en famille. C'est présenté par Animature. Pour y aller, il faut réserver une place parmi les 25 participants. C'est gratuit pour les membres, c'est 25 $ par famille pour les non-membres. C'est 3 enfants maximum et ça commence samedi à 13h30 pour réservation dans le 514-252-3023. 514-252-3023 et sur le site web pour de l'information, jeunes naturalistes au pluriel pour jeunesetnaturalistes.org. Il y a aussi de la danse avec Bust a Move pour les plus vieux, qui est une compétition de danse de rue. Donc, on parle de hip-hop, de locking, de whacking, qui célèbre cette année ses 10 ans et propose notamment une catégorie pour les enfants de 7 à 13 ans. Donc, je vous le disais, c'est des enfants un peu plus vieux. Ça s'appelle Kids Battle. C'est demain, donc à 18h et samedi aussi. En fait, demain, en fait, aujourd'hui et samedi, à la TOHU, à 6h du soir, 2345 Jarry Est, info 514-376-8648, 514-376-8648. C'est la compétition de danse Bust a Move. Et puis, à la soirée des ados, c'est la 8e édition de cet événement. Il y a 21 bibliothèques de Montréal qui seront interdites aux adultes et une multitude d'activités y seront proposées. Un atelier de danse urbaine, des tournois de jeux vidéo et quiz en tout genre, danse animée par des DJ invités, ateliers do-it-yourself divers, donc fabrication de bijoux, origami, nail art, donc l'art des ongles, des activités de kermesse, du karaoké, du baby-foot, le tout avec l'encadrement du personnel des bibliothèques et des animateurs, les 16 adultes permis. Pour plus d'infos, bibliomontréal.com, c'est vendredi, aujourd'hui, donc de 18h à 23h. Et finalement, les petits bonheurs, 11e édition du festival pour les tout-petits de 0 à 6 ans qui prend son envol aujourd'hui. 20 spectacles, trentaine d'ateliers, courts-métrages de l'ONF, parcours au Musée des Beaux-Arts, c'est ce week-end. Plus d'infos, petitsbonheurs, tout au pluriel, .ca, d'aujourd'hui jusqu'au 10 mai. C'était Geneviève Patterson avec vous et puis Rémi, notre cher metteur en ondes. Merci Rémi, je vous souhaite une agréable journée et une super fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine tout le monde!